Déjà que j'avais pas envie de bosser hier, déjà que j'avais pas envie de bosser demain. Bon, aujourd'hui ça allait, hein, c'est particulier, mais déjà que j'aurais pas envie de bosser la semaine prochaine, vous êtes fous ou quoi? Je vais pas aller bosser jusqu'à la fin de ma vie, hein. Allez, c'est cet après-midi, à partir de 14h, l'intersyndicale vous invite à aller le signaler à tout le monde que vous n'avez pas envie de bosser jusqu'au bout de votre vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023. Mais tout va bien, nous poursuivons nos pèlerinations radiophoniques. Ce matin, nous allons parler énergie et pas l'énergie qu'on va y mettre cet après-midi. Hein. Je parle d'énergie au sens le plus large. On va parler d'écologie par la force des choses. On va parler également vagabondage à travers le monde. Ce matin, c'est Robin, un vagabond de l'énergie, qui sera à nos micros pour échanger sur son aventure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous retrouverons également le répondeur, la chronique de Martin Bourg, un peu de bonne musique et de bonne humeur, la recette en fait de ce pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HD.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principale Active.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principale Active.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et je vous le disais, nous allons parler vagabondage et énergie. Nous avons avec nous ce matin Robin, un des vagabonds de l'énergie, pour échanger autour de son aventure. Bonjour Robin, comment vas-tu?
Eh bien bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif.
Voilà, 8h du matin, ça va, c'était un gars matinal.
Oui, ça va, ça va.
Ouais, ça va, toi, t'es un gars du matin.
Oui.
Bien heureux, les gars du matin. Je le disais, en tout cas, que tu étais un vagabond de l'énergie. Les vagabonds de l'énergie, c'est une structure qu'organise, qui accompagne les voyages un peu différemment.
C'est ça, c'est une association qui est basée sur Rouen, et le principe, c'est de soutenir des voyageurs, des vagabonds autour du monde, et pour aller analyser, transmettre aussi des connaissances autour de projets d'énergie, de toutes sortes.
Voilà, l'objet, on dit bien, c'est pas un voyage, c'est un vagabondage. On y
Exactement,
reviendra,
ouais.
On y reviendra durant cette émission. Le vagabondage, une sorte de voyage qui prend son temps et qui sait changer ses objectifs. En tout cas, ses destinations et les rencontres qui vont se produire entre deux. Les questions énergétiques, c'est sur un angle écologique, j'imagine qu'elles sont abordées.
Oui, les questions énergétiques sont sous un angle écologique, mais pas que, aussi sociologique, philosophique. L'idée, c'est d'aller comprendre le développement de projets d'énergie sous plein d'angles différents, sous plein de perspectives, et aussi de comprendre comment les citoyens s'intègrent à ces projets-là. Voilà.
On a vu il y a quelques années des tours du monde de vagabonds de l'énergie qu'on avait suivis, parce que je sais pas si vous comptez en saison chez les vagabonds ou si vous comptez en nombre de voyages ou pas, mais en tout cas ça fait plusieurs années,
ouais.
Il y a eu plusieurs départs qui ont été réalisés. Toi, ça a été autour de l'Afrique de l'Ouest, enfin du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest.
C'est ça, ouais. Mon objectif, c'était d'aller au Maroc initialement et puis de partir un peu vers le sud, et donc je me suis rendu au Sénégal notamment, en Mauritanie, et puis j'ai remonté finalement vers le Maroc. Voilà. Donc j'ai pas été dans beaucoup beaucoup de pays, mais c'était pas le but. Le but, c'était de prendre le temps de découvrir l'intérieur du pays, les disparités aussi à l'intérieur, les différents peuples. Voilà,
prendre le temps aussi, oui, c'est ça.
Exactement.
J'imagine que quand on arrive quelque part, si on s'y installe 3 semaines, c'est pas la même chose que si on y passe 2 heures.
C'est ça. L'idée, c'est de s'intégrer, de comprendre la culture, les cultures différentes aussi. Parce que quand on dit, bah, on va au Sénégal, on s'imagine un pays homogène avec plein de généralités qu'on a dans la tête. Et le but, c'est pas de faire le pays, mais plutôt de se défaire de préjugés, voilà, et de comprendre toutes les différences que les peuples composent, quoi.
Eh bien, nous aurons toute cette matinale pour en extraire quelque chose aussi de ton aventure, de ton expérience. Voilà, tout au long de cette matinée, on parlera du coup vagabondage, parce que c'est important cette notion de, ouais, de vagabondage, qui est pas toujours vue positivement. D'ailleurs, ce vagabondage, quand on dit vagabondage,
c'est un flâneur.
C'est un flâneur. Mais il est pas productif ou quoi, ce voyageur? Il n'optimise pas son tourisme.
C'est ça. Le but, c'est pas de faire du tourisme, d'optimiser, de maximiser, mais plutôt de prendre le temps. Moi, j'aime bien dire, voilà, quand je vagabonde, je me fixe un objectif et puis je me laisse la possibilité de dévier un peu, de faire des détours, voilà, de permettre la rencontre aussi, voilà. C'est permettre des choses.
The Secret Soul, on ouvre comme ça musicalement cette matinale et puis on revient juste après pour échanger.
À tout de suite.
C'était pour ouvrir, le pire reste à venir.
Ouais, salut la matinale.
Ah, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, là, t'es mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et sur le 95.9 dans le sud du département et sur le 99.1 sur Radio HDR à Rouen. Et ce matin, bah vous avez oublié de nous laisser un message. Voilà, on voulait avoir de vos nouvelles, savoir s'il y avait un événement, quelque chose que vous avez retenu dans le coin. Et puis non, en fait, vous l'avez gardé pour vous, vous n'avez pas voulu le partager. Eh bien, c'est pas grave, laissez-nous un message pour demain, un message pour lundi, pour mardi, pour mercredi, jeudi, ou l'autre vendredi. De toute façon, vous êtes toujours les bienvenus sur ce répondeur. Vous connaissez la technique, il n'y a pas de cadre. Laissez-nous ce que vous avez envie de nous raconter, tout simplement. On ne censure pas et on diffuse tous les jours de matinale aux alentours de 8h05, 8h10, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à nous en laisser. Une qui nous a laissé une petite, un petit message, c'est Martine Bourg à travers son « Bon matin, les pingouins ».
Bon matin, les pingouins.
Mais où il est, mon cheval? Mais où il est, mon cheval? Mais où il est, mon cheval?
Le palefroid.
Fais pas chaud, dit le palefroid à son soldat. Trotte, trotte, vaille que vaille, je te tricote une cotte de maille à la taille de ton poitrail. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un galop de travers, un rang pas bien droit.
Pégase.
Au fond du ciel, tu es parti, loin du récit du vieil Homère, loin du tonnerre et des éclairs, du roi des dieux, toujours furieux. Pégase, un soir d'orage, reviens sur terre, vaincre nos peurs et nos chimères. Et d'un seul coup de ton sabot, du rocher noir, fais jaillir l'eau.
Matin les pingouins, toujours le plaisir de retrouver la chronique de que Martine nous laisse d'une semaine sur l'autre. Pendant que nous écoutions Bon matin les pingouins, c'est Tinman qui nous a rejoint au studio. Bonjour, comment vas-tu?
Bonjour, je vais bien.
Voilà, pas trop tôt le matin.
Non, pas trop tôt, c'est l'habitude, je vais bien.
Très bien.
Ravi d'être dans le studio.
Eh ben, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On est toujours avec Robin Vagabond de l'énergie. Il nous l'a déjà dit, il était matinal, lui. Je suis entouré de gens qui se lèvent le matin, c'est terrible.
Peut-être que je n'ai pas eu le temps de dire bonjour à Robin. Bonjour.
Eh bien, bonjour. Merci.
Alors oui, parce que c'est plus fort que toi. On parle d'énergie, on parle de vagabondage à travers le continent africain. Et tu dis, je viens tout simplement, j'ai envie d'échanger avec ce monsieur.
Oui, c'est intéressant d'échanger avec lui parce qu'il faut... Bon, moi, j'ai commencé également quand j'étais en Afrique à réfléchir sur ces questions-là. Donc, il est intéressant de voir un peu comment lui également qui est allé sur le terrain aborde la problématique et peut-être qu'on peut se rencontrer, peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble, peut-être également qu'il peut m'éclairer sur un certain nombre de choses. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et c'était l'occasion à ne pas rater.
Eh ben voilà, l'occasion du 8h du matin, c'est toujours une occasion à pas rater. Alors, Robin, tu es parti vagabonder de septembre 2021 à novembre 2022, un peu c'est plus ça. D'un an de vagabondage.
Ouais.
Donc, tu es parti de France métropolitaine.
C'est et ça, puis, je suis parti avec mon sac à dos.
Voilà, et puis seul. jusqu'à faire son parcours sur l'Afrique du Maghreb.
Exactement, j'ai commencé à partir de Lille avec lui, à participer à un festival d'autostop qui s'appelle la Madjac. Et alors, on est très mal parti puisqu'on est arrivé dernier de la course après que les 2500 autres participants ne soient repartis. Voilà, il y avait plein de concerts à l'arrivée le samedi soir et nous, on est arrivé le dimanche soir. Voilà. Donc, ça commençait mal.
Ça s'augurait pas quand même un bon voyage par des moyens.
Et en même temps, c'était les prémices de ce qu'allait devenir mon voyage, c'est-à-dire, comme on l'a dit en introduction, prendre le temps, quoi. Voilà. Donc on a vraiment pris notre temps et voilà, et donc après le but c'était de partir en autostop vers l'Afrique et donc je me suis rendu à Lisbonne et là j'ai fait du bateau stop, donc j'ai trouvé un super équipage
un super voilier. Et ensemble, on est parti d'abord aux Canaries, puis on a amerri à Dakar. Voilà.
Alors comment ça se passe? Parce qu'en fait le projet initial c'était d'aller d'abord au Maroc. Ouais. Finalement on fait du bateau stop et puis on arrive au Sénégal quoi.
C'est ça, deux mois après qu'on ait prévu. Et ben les frontières du Maroc se sont refermées fin 2021 pour cause de Covid. Donc le but c'est de s'adapter, voilà. Et c'est ça aussi le vagabondage, c'est de prévoir un objectif et puis ben en fait voilà, il y a des contraintes extérieures qui ne dépendent pas que de nous, et donc on s'adapte. Voilà.
Alors on va revenir deux secondes sur cette notion de vagabondage qui est essentielle dans le périple, et puis ouais. Peut-être même dans ce qu'on voit quand on voyage. Le vagabondage, c'est tout simplement pas avoir le point de chute prévu, le moyen de transport n'est pas forcément prévu.
C'est
comment ça se passe, en fait, ce vagabondage?
Ouais, c'est ça, c'est... Mais par exemple, c'est ne pas savoir où on va dormir le soir. Ne pas savoir. Ben...
Alors oui, mais sauf que ne pas savoir où on va dormir le soir quand on a prévu un budget hôtel à 500 euros la nuit, ça pose pas de problème. Hein. On peut vagabonder comme ça aussi.
Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit budget. Alors bon, je suis pas parti comme nu et culotté, par exemple, à poil et sans argent. J'ai un petit budget quand même, voilà, je l'ai prévu sur un an. Mais le but, c'est ça, c'est d'être pris en voiture et puis peut-être que la personne qui nous prend en stop va nous accueillir le soir chez elle.
Ça me fait penser au sketch de Coluche, ça.
Ah, je connais pas.
Tu connais pas le sketch de l'autostoppeur de Coluche?
Ah, ça fait longtemps.
Ah, ça, c'est un truc, voilà, c'est bon. Donc, quand il se retrouve dans la voiture, déjà, il réclame à peu près tout l'autostoppeur. Ouais. Et puis après, il fait bon, il y a même des gens sympas qui nous invitent à dormir. Enfin, je dis ça, vous, c'est peut-être pas possible.
Ah, j'aurais dû la sortir, celle-là.
Si je me permets, pourquoi s'engager à vagabonder? Est-ce qu'il y a une démarche derrière le concept de vagabondage? Est-ce qu'il y a une démarche au sens où on veut signifier quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut peut-être dire que nous, les modernes, on ne vagabonde plus? Est-ce que c'est dans ce sens-là?
Oui, déjà, c'est peut-être le dépouillement, déjà. C'est-à-dire se fixer une contrainte, avoir moins. Puisqu'on est toujours dans une société plutôt matérialiste de consommation, et l'idée là c'est de dire je prends le temps déjà,
je m'allège
mentalement aussi, c'est ça aussi, s'alléger matériellement c'est s'alléger mentalement, et c'est ça, être à rebours, prendre le temps aussi de se faire des de s'intégrer, et puis aussi d'avoir des interactions fortes humainement quoi. C'est ça aussi.
C'est aller vraiment à la rencontre des gens plus que des lieux.
Ouais, c'est ça.
C'est souvent quand on fait du tourisme, on dit « Ah, j'ai été visiter tel monument, tel musée, tel truc, tel... »
C'est
en
ça,
fait, dans le vagabondage, il y a une notion « J'ai été visiter des gens, quoi.
Enfin, » Ouais, il y a une idée de collectionner les pays, collectionner les monuments. Et là, l'idée, c'est vraiment de chercher à s'intégrer et puis à comprendre aussi les problématiques locales, le monde qui nous entoure, quoi.
Voilà. Alors quand on vagabonde, on voit autre chose que quand on part en tour opérateur, forcément. Est-ce qu'il y a des choses sur ce vagabondage qui est d'un peu plus d'un an, 14 mois hein, de vagabondage, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments, on rentrera dans le détail après de l'énergie, mais est-ce qu'il y a eu des moments de submersion émotionnelle face à des choses, face à des rencontres, face à des trucs.
Ouais, j'ai eu des très très belles rencontres. Je pense notamment à un éco-garde dans le Siné Saloum, donc dans le delta du Siné Saloum au Sénégal. Et on l'a interviewé pendant une heure, avec mon amie Justine. Et il nous présentait toutes les problématiques locales et on sentait que c'était un homme passionné, quoi. Et moi, c'est ce que je recherchais justement, ce moment où on rencontre une personne passionnée. Alors peut-être que le sujet nous intéresse pas forcément, mais le fait juste de voir en face de nous quelqu'un de passionné et de passionnant, je trouve ça merveilleux, quoi. Voilà.
Moi, j'aimerais tout de suite poser la question. L'Occidental qui va comme ça en aventure en Afrique, comment est-ce qu'il voit l'Afrique? Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il a vu l'Afrique, comment est-ce qu'il a découvert l'Afrique. Est-ce que c'est un monde différent, ou alors c'est un monde qui est en train de s'occidentaliser, ou c'est un monde qui prend un chemin totalement autre? Comment est-ce qu'il découvre l'Afrique, si c'est la découverte, par exemple?
Bon, déjà, j'ai passé une semaine en voilier, on était 6. Dans un monde, voilà, il y avait que la mer, il y avait un calme, une sérénité, et puis là, on a mairie à Dakar,
Et premier choc culturel, déjà il y a beaucoup de pollution, beaucoup de déchets, et puis ensuite il y a beaucoup de bruit. Enfin, Dakar c'est quand même une ville qui est assez saturée, assez dense, beaucoup de voitures, beaucoup de pollution, il y a du monde partout, et donc c'est un rythme complètement différent. Donc d'abord on voit ce continent par la différence, et puis au fur et à mesure, en rentrant dans le détail, on comprend aussi que il y a beaucoup de points communs, quoi, voilà. Donc on voit d'abord des grandes différences culturelles, et puis ensuite on est différent culturellement, mais la nature est la même.
On retrouve l'humain.
Comment ?
On retrouve l'humain.
C'est ça, la nature est la même, quoi, voilà, c'est ça.
Donc sur ces notions-là, on a parlé de vagabondage, de conditions un petit peu, comment est-ce que ça s'est fait ? On évoquait là les joies de rencontrer quelqu'un de passionné. J'imagine que le vagabondage, là, on n'en garde que les bons souvenirs après coup, mais j'imagine qu'il y a tout ce qui est lié à l'incertitude, qui n'est pas toujours facile à gérer, j'imagine. Il y a eu des moments aussi de peut-être d'inquiétude même, pour parfois même sa propre sécurité, pour savoir où on va dormir, comment on va manger,
pourquoi pas d'ennui.
On peut
s'ennuyer.
Ouais, moi je suis quelqu'un d'assez peureux quand même, je me méfie des gens, et puis au Sénégal par exemple, les gens sont très généreux, t'accueillent tout de suite, et donc c'est pas facile aussi à prendre en considération. Alors oui, il y a eu des petits moments où voilà, je me suis retrouvé dans une camionnette à deux en plein désert à 22h entre les crocodiles et puis les sangliers. Alors on sait pas trop, et puis on n'a pas trop confiance aux gens, quoi.
Et si on se demande de combien va être la rançon.
Exactement, je me suis retrouvé dans un épisode de Breaking Bad par exemple. Dans le coffre d'une camionnette, ça fait un peu peur, quoi, dans une route qui est pas vraiment une route en sable.
Sans vraiment savoir comment ça va se goupiller, quoi, c'est ça.
C'est ça.
Avec l'incertitude du déroulé.
Ouais, exactement. Et puis au fur et à mesure, on prend de plus en plus confiance en soi, et puis on trouve quand même des gens gentils, quoi. La morale de l'histoire, c'est quand même que les humains sont généreux quand même et gentils, quoi, dans le fond. Ouais.
Tinement l'aborder un instant, la peur de l'ennui, ça fait partie aussi, l'ennui ou le flottement, ou des moments où il va rien se passer de ce vagabondage.
Oui, il y a des moments, il y a des jours où, surtout en Afrique, où enfin le rythme est différent. Et puis il y a la peur du vide, quoi. Nous, les Occidentaux, dès le matin, voilà, on veut que notre journée soit bien remplie. On a des agendas assez rigides, assez fixes, et on a peur de se laisser aller, quoi. Et l'idée, c'est ça, c'est toujours de prendre le temps et d'essayer de se laisser aller, voilà.
Je te propose une première pause musicale, une pause musicale que tu m'as proposée, en fait, très clairement, celle de la violoniste, d'une violoniste. Voilà, je te laisse présenter le morceau pour qu'on en comprenne toute la saveur à l'écoute.
Exactement, j'ai rencontré l'équipage Sitzeling, donc qui m'a pris sous son aile, sous sa voile, jusque Dakar, et dans cet équipage, il y a MK, qui est violoniste, et bioacoustique marine, voilà, qui est biologiste marine, pardon.
Qui allait enregistrer les baleines, notamment.
Exactement, qui enregistre le son des baleines pour mettre son violon dessus. Et là, à Dakar, on a rencontré un groupe de musique, la 20 Family. Et ensemble, ils sont allés dans un studio pendant 3 jours. Ils se sont enfermés et ont composé cette musique.
Eh ben, on écoute ça, alors. Yeah.
lay noy bëgg dund comme ñëpp ma ngi ci souf yi té wo sama gël té ma bëgg naaw dañu fëtt sama tag sorti ma ndox bala xass sama reën souf tour na xewal tay dama dem rouge pollution dima cancer ñi est ce am nañ xel dama xiñ fi ma né ken bay wu ma xel soxla na sen tioffel nga sauver ma sauver pour nature bi dundu yaw
amal ma ko all amna solo bul ko fowé gancha ki amna solo min deb len yow baxna da ci sa dund bakkan la yoni ñepp samal ma nati bi Mamonat kulgi noy na nep ni alna ta tul na kwi so pichiko mune mbus mi ci geejgi fatna jeen wi ni khous ci ndokh mu balel dul dul wel souffre donnant ses derniers souffles on se touffe respirant de la merde. Mais pourquoi chercher autre part où aller vivre? Pourquoi donnons à cette nature ce qu'elle mérite? Ça va, ça va ma nature, ça va ma nature, ça va ma nature.
Je vais te laisser désannoncer le morceau, Robin.
Samal ma nature bi, c'était donc ça veut dire protégeons la nature en wolof. Voilà.
Et c'était chanté en wolof, en anglais et en français. Déjà un mix culturel, rien que dans la façon de faire le morceau.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principatif.
Et nous sommes ce matin avec un des vagabonds de l'énergie, Robin, pour échanger autour de son périple sur les pays du Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, avec cette question, cette quête autour de l'énergie. Tinément avec nous également au micro ce matin pour nous pour également rencontrer Robin. Il me disait, attends, on parle Afrique de l'Ouest, on parle énergie, on parle écologie, on va faire la rencontre. Eh bien, nous faisons la rencontre justement. Je voulais revenir sur le projet, et puis finalement, on a beaucoup parlé des conditions du fonctionnement, du vagabondage et toutes ces questions. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur un petit peu l'objet de l'enquête. Tu as réalisé quand même du reportage sur ce voyage durant 14 mois. Tu étais à la rencontre des populations locales, de comment ils vivaient, de comment il y avait du projet innovant sur les questions énergétiques. Et notamment dans cette question énergétique, nous, quand on est ici à Évreux, on se dit, bon, bah, l'énergie, c'est l'électricité, le gaz, le truc. Mais il y a l'eau également dans cette notion, dans cette globalité énergétique.
Ouais, c'est ça. J'ai pris l'énergie au sens large. Donc, c'est-à-dire en incluant l'agriculture, l'alimentation, l'eau, le transport aussi, le logement. Voilà. Donc, c'est vraiment l'énergie au sens large.
Alors, comment on aborde ça et quel est le lien peut-être avec tes compétences antérieures?
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en énergie, justement. Et comment on aborde ça?
Parce qu'il suffit pas d'aller voir les gens en disant et comment tu te chauffes. J'imagine. Non mais c'est.
Ouais, c'est ça. Moi, je voulais partir avec cet objectif d'aller voir des projets et puis les problématiques locales autour de l'énergie, de l'écologie. Et donc j'ai décidé de produire un podcast, de réaliser un podcast autour de ces questions-là et d'aller interroger les gens autour de ça. Voilà.
Et alors, quels sont les premiers constats? Est-ce que quand on passe de la Mauritanie au Sénégal, au Maroc, voilà, quand on se balade comme ça sur un continent, est-ce que finalement les questionnements, les problématiques, les préoccupations sont les mêmes ou en fonction des régions et des lieux, bon, on aborde les questions autrement?
Ouais, c'est ça. Dans nos pays occidentaux, bon, on minimise un peu l'importance de l'énergie, notamment. Du traitement des déchets, du traitement des eaux aussi. Et en arrivant à Dakar, j'ai vu une belle baie, la baie de Han, qui est remplie de déchets solides, de pollution liquide aussi. Et donc là, on comprend vraiment l'importance de créer des infrastructures pour traiter les déchets, notamment.
Parce qu'en Occident, même si c'est pollué, on le cache. Enfin, c'est pas forcément évident.
Oui, alors on exporte nos déchets déjà. De déchets en Asie pendant des années, et puis en Afrique aussi. On cherche de plus en plus de pays qui veulent bien de nos déchets. Et donc en Afrique aussi, le problème, c'est qu'on produit, on vend, on achète à gogo, et puis on jette, par la fenêtre. Et le rapport à l'argent aussi, parce que en Afrique, il y a moins de moyens, et donc le problème, c'est de créer des infrastructures un peu comme en Occident, avec des systèmes industriels, mais avec moins d'argent, quoi. Et donc il y a des réelles problématiques, et vraiment le traitement de l'eau, le traitement des déchets, c'est une dépense extrêmement importante, quoi.
Moi, je vais comme ça te poser la question. Est-ce que quand tu vas rencontrer les gens, par exemple à Dakar et dans d'autres pays, est-ce que tu leur parles du concept d'énergie? Si tu prononces ce concept-là, est-ce que tu as l'impression qu'ils comprennent de quoi est-ce que tu veux parler, ou alors il faut trouver des correspondants peut-être dans leur langue, dans leur manière d'être? Parce que je te pose la question parce que je sais, par exemple, qu'en philosophie, le concept d'énergie a renvoyé à quelque chose dont la philosophie africaine s'est longuement appesantie.
C'est renvoyé à quoi?
La notion de force vitale. La notion de la force vitale. Ouais. Dont les Bantous, ils ont cette représentation-là selon laquelle tout est vie, tout est vitalité. Et c'est plus là qu'ils leur parleraient. Le concept d'énergie, à mon sens, parlerait moins que le concept de force, de vie. Est-ce que c'est la même expérience que...
Ben moi, quand je leur dis que je veux faire des reportages sur l'énergie, donc ils pensent tout de suite à la production électrique et puis aux panneaux solaires aussi, notamment, parce qu'il y a beaucoup
Ils perçoivent l'énergie en fonction de leur problématique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'eau, ils veulent de l'électricité.
Ouais, exactement. Et puis l'alimentation aussi, l'agriculture, quoi. Donc les problématiques de savoir. C'est ça, voilà. Manger, quoi, voilà.
On se faisait la remarque quand on préparait un peu cette émission, en se disant, c'est vrai que cette année, par exemple, en France, on nous a annoncé pour la première fois qu'il allait peut-être avoir des coupures d'électricité, des ruptures d'approvisionnement électrique et tout. Et là, on a senti comme un état de guerre. à Évreux, à Paris, à tout ça, on dit, ça va être compliqué et tout. Peut-être que ces questions énergétiques aussi sont pas abordées de la même manière comme étant quelque chose. Enfin, quand on parle de l'eau, on tourne le robinet, on se pose jamais la question. On a toujours de l'eau qui coule du robinet ici. Ouais. Quand on allume l'électricité, il y a toujours une ampoule qui s'allume. Enfin, tu vois, alors on peut nous dire qu'il faut consommer moins. On peut nous dire que c'est compliqué, que ça pollue, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça marche toujours en fait. C'est peu importe ce qui se passe. On tourne le robinet, on lève le chauffage, on fait peu importe quoi, ça fonctionne. C'est pas toujours le cas en fonction des endroits, j'imagine, et notamment les îles, on l'a abordé rapidement.
Exactement, ouais. Au Sénégal, il y a des villages reculés qui sont sur des îles, et donc la question de l'eau est très importante. Donc il y a beaucoup de puits, voilà, on boit l'eau à travers le puits, et puis aussi l'électrification des villages, et d'où l'importance aussi de développer, par exemple, les panneaux solaires, par exemple. Ça se développe beaucoup. Au Maroc aussi, la question de l'eau est très importante, parce qu'il y a Il y a de plus en plus d'endroits où il manque de l'eau, où il faut creuser des puits jusqu'à 100 mètres, par exemple. Et donc la sécheresse est très préoccupante, quoi.
Quand on parle de réchauffement climatique, c'est quoi? C'est aussi creuser de plus en plus profond pour trouver un peu d'eau, notamment dans l'agriculture, puis notamment dans les puits qui vont être les points de collectage de l'eau.
Ça, on parle de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, mais c'est aussi la question des ressources, de la raréfaction des ressources et notamment de l'eau, quoi. Par exemple, si on veut faire un projet de pétrolier, comme il va se faire au Sénégal, eh ben on a besoin de l'eau aussi pour faire ça. Et donc, cette eau qu'on va utiliser pour ce projet-là, on va pas l'utiliser ailleurs, dans l'agriculture notamment, quoi.
Tu me disais aussi que plus ça va, plus les cultures changent aussi, parce qu'en fait, l'eau des cultures, elle va de plus en plus profonde. Tu m'évoquais notamment les agrumes quand on préparait cette émission. Ouais. Hein. Et c'est un enjeu qu'on maîtrise pas forcément, nous, ici, cet enjeu de se dire que la culture, et notamment sur le continent africain, on est perturbé finalement de cette raréfaction de l'eau, des fonctionnements des pluies un peu différentes.
C'est ça, ouais. Je suis allé notamment à deux endroits, donc dans le Siné Saloum où il y a beaucoup de mangroves, et avec le réchauffement climatique, elles sont en péril. Et donc ces mangroves servent à dessaler l'eau et aussi à fixer les sols. Et donc s'il n'y a plus de mangroves, le sel ronge les terres et on ne peut plus cultiver. Et puis au Maroc aussi, avec la sécheresse, donc notamment dans la vallée du Drâa, entre Ouarzazate et puis Mamin El Rislan, et le sud du Maroc, là il y a une grande culture de palmeraies, de palmiers, et il y a tout un écosystème, donc avec des agrumes et aussi du maraîchage. Et on voit les palmiers qui sont de plus en plus jaunis, et pourtant les palmiers vont chercher l'eau très profondément, et par contre les agrumes qui peuvent aller chercher l'eau qu'à quelques mètres du sol, sont en grand péril, et il y a des espaces où il y a plus du tout de palmiers, enfin d'agrumes justement, quoi. Donc là, les effets du réchauffement climatique, ces pays du Sénégal, du Maroc, ils les voient directement, quoi.
Voilà. Peut-être, est-ce qu'il y a une ingénierie locale justement qui permet de prendre conscience de ces problématiques-là et puis de commencer à proposer des solutions? Est-ce qu'il y a véritablement, d'un point de vue local, je pose la question parce que je sais que j'ai regardé et j'ai lu quelques travaux sur l'écologie vue du Sud. L'écologie vue du Sud, je sais pas, comment ça se passe, comment toi tu as ressenti, comment tu as perçu, comment les gens font pour répondre à ces problématiques-là?
Oui, au Maroc notamment, sur la vallée du Drâa, il y a de la recherche, notamment sur le fait d'essayer de sélectionner les meilleurs palmiers pour qu'ils résistent aux perturbations climatiques, notamment. Mais après, la recherche reste limitée quand même. Le nombre de doctorats, de thèses, c'est quand même un financement important. Et donc là, ils sont plutôt... ça reste quand même assez limité, quoi.
Moi, je voulais qu'on avance un petit peu sur ce que tu as vu d'intéressant, finalement, parce que tu as fait le tour des initiatives, des solutions mises en place, parce que là en fait, on s'étend un peu sur la problématique et puis sur le constat, mais qu'as-tu vu en termes de solutions, en termes d'initiatives, de projets, de mise en œuvre?
Un exemple concret, au sud du Maroc, dans le Sahara occidental, il y a l'Anti-Atlas qui est à plus de 2000 mètres, 1500 mètres, et au-dessus de cette montagne, il y a des grands filets de brouillard de plusieurs mètres carrés. Et alors ces filets de brouillard, donc qui sont sur la côte, captent le brouillard et le met dans ces filets un peu en toile d'araignée, en plastique, et transforme ce brouillard en eau. Et alors l'eau est passée dans les canalisations et est stockée dans la vallée et peut alimenter des villages, des douars, pour les habitants qui y sont autour. Et ces habitants, ça change leur vie, parce qu'il y a souvent les femmes, les filles font jusqu'à 3-4 heures de marche par jour pour aller chercher l'eau, font plusieurs allers-retours pour aller chercher l'eau dans un puits. Et grâce à ces filets de brouillard, les habitants ont de l'eau toute l'année. Voilà, donc ça, c'est vraiment un projet plutôt low-tech, quoi, basse technologie, qui permet de changer concrètement la vie des gens, quoi.
Et ça, c'est mis en œuvre simplement, c'est du collectage. C'est peut-être être vraiment en phase. Enfin, c'est récolter la nature, en fait. La nature propose ce brouillard.
Ouais.
C'est comment faire pour en extraire finalement nos ressources.
Voilà, en essayant d'avoir le moins d'impact écologique possible, quoi.
Là, capter le brouillard, a priori, c'est très peu d'énergie pour de l'eau, quoi.
C'est ça. Après, faut quand même faire les filets. Ils sont assez imposants. Et puis, il faut faire la route pour aller les mettre au sommet, quoi. Mais une fois que c'est fait, et ben voilà, c'est bon pour des décennies normalement.
On y reviendra sur ce concept de low-tech sur la fin de l'émission, si tu le veux bien. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça, en se promenant, là tu nous parlais de l'Atlas occidental, est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a eu d'autres initiatives qui ont attiré ton attention, des exemples de projets?
Par exemple, je parlais du Ciné Saloum, du delta du Ciné Saloum au Sénégal, les menaces concernant les mangroves et la disparition des mangroves, et notamment les habitants coupent ces mangroves pour en faire du charbon, par exemple du bois. Et alors, il y a une ONG qui s'appelle Nebedaï et qui fabrique du biocharbon, donc du charbon avec de la paille. Ou encore, il y a aussi du charbon fait avec des coquilles, de noix de cajou, par exemple. Et donc là, ça permet de limiter son impact, d'essayer de reboiser aussi et de ne pas couper d'arbres. Et donc ça, c'est des projets qui essayent d'inclure les citoyens, les citoyennes aussi, beaucoup. Parce qu'ils essayent d'inclure donc les femmes dans la transformation aussi de produits locaux. Donc tout ça, c'est des initiatives qui essayent de prendre l'environnement vers soi, quoi. Voilà.
Il y a une dimension sociale dans ces solutions, ouais. Même. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a une solution technique, ouais. Il y a une solution écologique, mais en fait, il y a une œuvre sociale en fait derrière. Enfin, une œuvre sociale, j'entends, de la société ouais. Et de l'implication des uns et des autres.
Ben oui, il faut penser quand même l'écologie avec le social. Il faut inclure les deux. C'est ça. Et donc, il y a dans cette ville où je suis allé à Tambacounda, dans le Ciné Saloum, il y a aussi un animateur qui fait des pièces de théâtre autour de l'environnement à des enfants. Et l'idée, c'est vraiment d'inclure les citoyens, toutes les associations. Voilà.
Il y a une notion aussi de la menace sur les écosystèmes, en fait, sur ce changement climatique. C'est vrai que nous, on est préoccupés à savoir est-ce que le Bordeaux, finalement, il va être fait un peu plus dans le nord. Est-ce que les Anglais vont faire du bon vin? J'exagère un peu, je force le trait, mais sur ces questions écologiques, c'est vrai qu'ici, en France notamment, et quand on est à Évreux, même si on se dit, tiens, 19 degrés au mois de janvier, c'est pas normal, mais on prend. Même si on trouve que des fois, il y a des moments de tempête, de pluie, mais ça va en fait. Ouais. Enfin, on menace pas encore l'écosystème ébroïcien aujourd'hui ouais. Sur ce réchauffement climatique. Quelle en est dans des zones plus au sud, est-ce qu'on est déjà sur des menaces d'écosystème ouais. Ou des disparitions même
exactement.
D'écosystèmes?
Exactement. Il y a des endroits où vraiment, par exemple, la mangrove a complètement disparu ou presque en Casamance. Voilà, c'est déjà fichu. Mais ce qui est important aussi, c'est le fait de que la population, la majorité de la population, travaille dans le secteur primaire, quoi. Donc dans la permaculture. Et directement impacté par les différences et l'impact écologique, alors que nous on a plutôt un travail, on travaille plutôt dans le milieu tertiaire, dans les travaux de service, dans les travaux de service, et donc ça nous impacte moins, ou à part avec l'inflation quoi. Mais là, eux ils sont vraiment directement touchés et pourtant c'est pas eux qui causent c'est pas eux la cause de nos changements quoi. Quand bien même il y a beaucoup de pollution même à Dakar, faut quand même comprendre qu'un Sénégalais consomme émet 0,5 tonnes de CO2 par an. Nous on en consomme, on en émet 10 à 12 tonnes par habitant par an quoi.
Parce que il y a une échelle qui est immense quoi.
Et donc l'impact aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'exodes rural. Il y a beaucoup de Sénégalais, de Marocains qui fuient leur village pour aller en ville, voire d'exil. Hein. On a rencontré sur la route à vélo beaucoup de personnes qui essayaient de fuir leur pays pour aller trouver du travail ailleurs, à cause notamment du réchauffement climatique quoi.
Bon, moi je vais comme ça un peu devenir taquin et te poser la question de savoir l'occidental qui va justement en Afrique. Si je comprends bien la perspective, tu vas regarder pour voir comment est-ce que la pollution impacte sur l'Africain, mais est-ce que les Africains même ils ont conscience de cette problématique-là? Est-ce qu'ils ont conscience? Et puis, est-ce que c'est pas à eux-mêmes de prendre, de se responsabiliser? Parce que oui, l'Occident pollue. Mais par exemple, moi qui mène des travaux depuis une dizaine d'années, ce que je regrette, et c'est mon point de vue, tu me diras peut-être le contraire, c'est que l'Afrique elle-même n'a pas suffisamment pris conscience de ce que son destin se joue, peut-être même plus qu'en Occident. Les Africains, ils sont là, ils voient leur environnement direct changer, ils ne connaissent pas les raisons pour lesquelles, et on va dire, qui sont amorphes. Et pourtant, ils ont des ressorts à travers leur savoir-faire, leur savoir-être. Mais tu parlais des thèses, par exemple, des travaux de recherche. Il n'y a véritablement pas un engagement dans ce sens-là. Comment est-ce que toi, tu as...
Non, moi, j'ai vu beaucoup de citoyens engagés quand même et beaucoup de jeunes qui essayent de changer ça. Il y a beaucoup d'associations, de mouvements pour changer son milieu. Il y a beaucoup de... Voilà, j'ai rencontré un conteur notamment qui raconte des histoires pour changer justement, pour donner la motivation aux jeunes. Ouais, c'est ça. Non, j'ai vu quand même. Et puis, enfin, je suis pas si d'accord avec toi dans le fait que c'est quand même l'Occident qui pollue le plus. Hein. C'est eux qui sont allés mettre leurs usines d'extraction minière. C'est quand même nous qui allons mettre nos tracteurs pour aller faire des champs entiers de monoculture.
Je vais parler par exemple du Cameroun que moi je connais bien. Au Cameroun, il y a l'agriculture, par exemple la monoculture.
Ouais.
Et les Camerounais eux-mêmes aujourd'hui se sont appropriés cette manière de faire et ils la multiplient. Je connais des personnes qui me sont proches qui sont accaparées des dizaines voire des cinquantaines d'hectares de terrain pour faire de la monoculture. Et on se dit ce sont des Africains. Et eux-mêmes, ils sont responsables, ils perpétuent ce modèle-là.
Oui, complètement. Mais toujours quand on peut, on veut. Quoi.
Dans la rencontre, nous sommes rencontrés musicalement avec Robin. C'est vrai, on a fait connaissance musicalement. Un des morceaux sur lequel on s'était arrêté, c'était Bafang.
Voilà, fait découvrir.
Nos plus camerounais hébroïciens ou nos plus hébroïciens camerounais, je sais pas dans quel sens on peut le voir. En tout cas, Bafang avec le morceau Ibabemba.
Riva Bamba, Bamba,
Bafan. C'est ça, c'était la découverte. On a des discussions off, c'est assez terrible, hein. On se fait déborder par tous nos échanges, c'est ça. En fait, nous mettons trois bavards, trois passionnés autour de la table. Pensez-vous qu'ils vont s'arrêter pendant les pauses musicales? Aucune chance. On essayait de joindre Clément pour le plaisir d'échanger, mais j'arrive pas à l'avoir là. Moi, je voulais revenir sur le concept, là, tu le disais, sur la low tech. En fait, les vagabonds de l'énergie, ils pensent à cette technique, la low tech. Déjà, qu'est-ce que la low tech et puis quelques exemples concrets de comment elle peut être.
Dans l'association, donc il y a le pôle voyage dans lequel je fais partie, et puis il y a aussi un pôle activité où on va essayer de on va dans les écoles notamment proposer des ateliers autour du réchauffement climatique pour sensibiliser le grand public, et notamment aussi à travers le festival Les Chemins de Travers qui a lieu en octobre tous les ans. Et on a un four solaire dans l'association, donc un four solaire vraiment, donc ça marche avec, c'est une grande cage avec des miroirs pour chauffer juste avec l'énergie du soleil, quoi.
En Normandie, ça suffit l'énergie qu'on a?
Oui, il y a un boulanger, Arnaud Créteau, qui produit son pain et qui est professionnel là-dedans. Ouais. Et donc, voilà, la low-tech, ça peut se définir de trois manières. Je cite le Low-Tech Lab, tout ce qui est utile, durable et accessible à tous. Voilà, donc c'est essayer de faire mieux avec moins, finalement.
Ce qui est plutôt pas mal. Je prends le téléphone parce qu'on a notre ami Clément.
Clément qui va parler de moi, de l'association.
Et ben voilà, exactement. Bonjour Clément, t'es direct en direct. Hein. En fait, on s'est raté sur la pause musicale, donc t'es direct en direct. Bonjour Clément, comment vas-tu?
Eh ben bonjour, ça va bien. Je suis très content d'être direct.
Oh là, c'est pas terrible la façon... ton téléphone coupe, où es-tu Clément? Où t'es-tu caché?
Ah là, écoute, je suis à l'intérieur, hein. Peut-être qu'effectivement j'ai un souci. Ouais. La connexion, attends, est-ce que c'est mieux là?
Je sais pas, essayons. Alors Clément, dis-moi, on a un vagabond avec nous, qu'est-ce qu'on en fait du vagabond? C'est que toi t'es un grand chef vagabond, un vagabond expert, et on a Robin qui est avec nous. En deux mots, raconte-nous un petit peu les vagabonds de l'énergie, et puis qu'est-ce qu'on fait du vagabond qu'on a récupéré là?
Écoutez, je sais pas, parce que justement j'ai eu des petits soucis de connexion, donc j'ai pas pu du tout écouter ce que vous avez raconté, mais je suis sûr qu'il a raconté plein de bêtises, évidemment, comme d'habitude, c'est ça.
Bien sûr, et c'est ça que nous venons chercher, tu le sais bien.
Tout à fait. Non, bah écoute, les vagabonds, je crois que Robin, c'est le septième voyage, en tout cas il porte le septième projet de voyage de l'association, qui depuis 2009, du coup, fait un peu ça, d'aller explorer à travers le monde des sujets liés à l'énergie, et puis des sujets qui sont un peu connexes aussi à l'énergie, et toutes ces questions de la transition, pour aller documenter certains sujets, rapporter de la connaissance, partager du savoir et des choses plutôt positives. Même si c'est aussi l'objectif d'aller analyser, comprendre toutes les problématiques qu'on peut rencontrer autour de ces questions-là.
Alors justement, là, on a beaucoup évoqué le voyage avec Robin, qui est parti 14 mois sur les pays du Maghreb, enfin faire un voyage au Maghreb et dans l'Afrique de l'Ouest. On a évoqué ça durant toute cette heure. Moi, je voulais revenir un petit peu à Rouen, du coup, où est hébergée l'association Les Vagabonds de l'énergie. Quelles en sont les actions à l'année, Clément?
Eh bien, alors, en fait, on a développé depuis 2018 un deuxième pôle, en plus des voyages, qui est le pôle animation, où là, l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec des personnes localement autour des thématiques de la transition. Mais je sais pas comment dire, on essaye de travailler cette question-là de l'écologie qui est assez complexe et qu'on a du mal à rendre sympathique. Donc on essaye, nous, à travers nos activités, de faire évoluer la culture collective autour de la question de l'énergie. Donc on va développer des activités qui sont plutôt très ludiques, très sympas. On essaye de faire comprendre que cette transition, elle peut être joyeuse, heureuse, conviviale, tout ça. Donc on travaille autour d'ateliers d'alimentation, par exemple. On va utiliser l'énergie du soleil ou l'énergie du bois pour cuire des aliments. On va utiliser le jeu de société pour pouvoir, à travers des activités ludiques comme ça, échanger autour de sujets. On va faire des ateliers, des expériences autour de l'énergie. Voilà, ça prend des formes variées. On intervient auprès de tous les publics. Ça va de la petite enfance, enfin on va dire à partir de 7-8 ans, jusqu'aux adultes. Voilà, et ça va d'ateliers très simples et de découvertes ludiques jusqu'à des ateliers de réflexion où là on se pose en groupe, on met des sujets sur la table et puis on partage parce qu'on se rend compte que bah, parfois on n'a pas tous le même avis sur certains sujets alors qu'on est chacun de notre côté avec nos avis, donc on a besoin d'en parler, on a besoin d'échanger et voilà, on essaye de faire tout ça, c'est pas toujours évident, on explore plein de formes d'animation et d'expérimentation avec...
Oui, parce que c'est pas parce qu'on va dans le même sens qu'on est d'accord sur les solutions, et ça c'est intéressant aussi de venir les confronter, les échanger avec d'autres personnes. Les vagabonds de l'énergie, c'est alors maintenant on commence à collecter un paquet d'informations quand même. J'aurais presque envie de dire vous êtes quasi centre de ressources maintenant.
En tout cas, on a documenté certains sujets. Après, ça reste des mini points qu'on a observés à travers le monde. Le but, c'est pas d'être un centre de ressources ou de documentation, mais c'est de pouvoir s'appuyer sur ces exemples précis pour nous faire réfléchir, nous faire cogiter et puis sortir un petit peu aussi de nos réflexions parfois qui sont très centrées sur notre système français, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais on prétendra pas du tout jamais faire un inventaire de ce qui se passe à travers le monde, etc. Le but, c'est d'aller chercher des petits spots, vagabonder pour les trouver, se rendre compte qu'il y en a partout et qu'on peut s'inspirer de plein de choses. Voilà. En général, mais c'est ça l'idée.
Les vagabonds de l'énergie, on trouve ça sur Internet, les vagabonds de l'énergie, point quelque chose, j'imagine.
Point, oui, vagabondenergie.org, c'est ça. Et puis après, selon les voyages qui ont été portés, les différentes actions, on trouve des articles, des photos, des vidéos. Robin nous fait des super podcasts.
Je sais, on va les récupérer.
Sur votre antenne.
Oui, on va les récupérer, les podcasts, les super podcasts de Robin.
Très bien.
Donc, il peut plus les diffuser. Bon, écoute, c'était pour prendre un petit peu de tes nouvelles, notamment. T'étais rendu à quoi, là, à 8h56, au café, à fond les ballons?
C'est vraiment un réveil, là. Je suis pas du tout en Normandie, là. Je suis un peu en vacances. Donc, c'est un petit réveil matinal. On prend le temps.
Ça nous fait plaisir si on t'a réveillé. J'espère qu'on t'a bien mis dans des bons rails pour une bonne journée.
C'est plutôt pas mal avec le sourire, la bonne humeur, en tout cas. Ça fait plaisir aussi de vous entendre, Principe Actif, et d'être avec vous. Ça faisait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps. Dès que ça fait plus de 2 mois, on dit que ça fait longtemps avec toi.
Hein. C'est ça.
Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu au téléphone. Écoute, se faire réveiller par Principe Actif, c'est plutôt pas... Il y a des radios qui font gagner de l'argent quand il faut réveiller. Nous, pas du tout. On demande juste des nouvelles. Hein. Voilà.
Ouais, faites gagner du bonheur, vous, c'est mieux.
Écoute, t'as les bons mots. Écoute, c'est comme ça qu'on va attaquer notre journée. Merci beaucoup, Clément, d'avoir échangé avec nous au téléphone. Et puis, on te dit à très bientôt.
Merci à vous. Bye bye.
Salut, Clément.
Salut, Clément.
Donc voilà, c'était le petit point, ça nous faisait plaisir. Et puis ça n'a pas de prix, réveiller les copains le matin. Non mais il y a ça aussi, hein, on peut se le dire. Réveiller les copains le matin, ça n'a pas de prix. Donc voilà, ce sont les vagabonds de l'énergie. Alors on évoquait les podcasts, les auditeurs peuvent les retrouver eux-mêmes sur les plateformes Deezer, Spotify notamment.
C'est ça, voilà, j'ai créé un podcast qui s'appelle Énergie Vagabonde, au pluriel, qu'on peut retrouver sur Spotify, sur Deezer. Et l'idée, voilà, c'est de faire des reportages autour du voyage et de l'énergie.
Bien entendu, nous les diffuserons sur notre antenne, c'est un deal qu'on a passé ensemble. Hein.
Un grand merci à toi.
On a topé, comme on dit, on a dit « Ok, tes podcasts, ils sont cool, vas-y, ok, on les diffuse. Retrouvables, on l'espère, sur d'autres médias radio associatives. En une demi-seconde, parce qu'en fait, on est pris par le temps, il y avait, quand on l'a évoqué, les radios locales, en Afrique notamment, ont un boulot important sur tout ce qui est transmission d'informations. On y est sensible, forcément.
Il y a beaucoup de radios communautaires, associatives, qui permettent aussi de comprendre toutes les problématiques locales et puis d'intégrer la population à ces problématiques. Ouais. Ils font de la sensibilisation beaucoup. Très important.
Et sont les médias, justement, médias locaux.
Ils font un vrai maillage local. Quoi.
Et ça, voilà, ça, on y est forcément sensible.
Permet de rassembler les gens, de créer un réseau aussi, oui.
Et du coup, on y est particulièrement sensible. Donc, on a dit, on peut retrouver toutes les infos sur Spotify, Vagabond de l'énergie, vagabondenergie.org également pour centraliser les infos.
Facebook aussi,
Facebook également. Ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ces aventuriers de l'énergie. Parce qu'il y a une notion d'aventure quand même dans cette façon de vagabonder et de
sortir
collecter.
Sortir de sa zone de confort et, exactement.
Tout à fait.
Ça peut donner des idées et des envies.
Eh bien, écoute, on espère en tout cas que ça aura intéressé nos auditeurs. Merci Tinement pour ton éclairage de philosophe camerounais, on pourrait dire. Merci. Et pas que d'ailleurs, hein, et pas que celui de ta présence pour pouvoir questionner. Merci Robin d'être passé par le micro, c'est un vrai plaisir.
Et ben et puis j'embrasse Oriane que je vais rejoindre à Paris pour aller manifester cet après-midi.
Et ben justement, on arrivait à cette conclusion. Aujourd'hui, grand mouvement de grève et de manifestation intersyndicale autour de la loi retraite, bien entendu. Je le disais en intro, j'ai pas envie de bosser jusqu'à la fin de ma vie quand même. J'aimerais bien pouvoir en profiter un petit peu. C'est pas par fainéantise, hein. C'est pour profiter aussi des choses, bien entendu. Voilà, profiter de la vie et pas seulement profiter du travail. C'est aujourd'hui les mobilisations. Il y en a à Évreux, il y en a à Rouen, il y en a à Paris, il y en a un petit peu partout. Si vous vous sentez concerné et que vous avez envie, bien entendu, vous pouvez rejoindre un cortège pour pouvoir vous faire entendre. Puis si vous êtes d'accord, restez chez vous, hein, ou allez au boulot, c'est pas ça la question. Mais bon, vous pouvez aussi aller manifester. Restez à l'écoute de nos programmes, parce qu'ils sont cool.
RFI Musique.
Ah ben oui, le bulletin d'info aujourd'hui, RFI, j'ai vous envoyer RFI.
Lors de grève nationale, RFI n'est pas en mesure d'assurer son programme habituel. Veuillez nous en excuser.
Écoutez-moi, voisine de Timon.
Ah bon, on va laisser celle-là.
Consacré, changez autres. Voisine, écoutez-moi, pas faire des autres.
Écoutez-moi, voisine de Timon.